Comme je disais à Michel Lagacé, hors des ondes, il y a deux secondes, il y a du monde en studio ce matin. Il y a le préfet de la MRC, il y a le maire de Saint-Cyprien, il y a le président de la CMR et il y a en plus le président de la régie...
De l'énergie du Bas-Saint-Laurent.
De l'énergie du Bas-Saint-Laurent. Alors, on a laissé la porte ouverte pour pas qu'il fasse trop chaud. Michel Lagacé, bon matin.
Bon matin.
Bon, oui, c'est sûr qu'on va parler un peu de la CMR. On va parler aussi ce matin de l'éco-centre puis des tarifs de vie. On va essayer d'éclaircir des choses là-dessus. Il y a des trucs à Saint-Cyprien qui m'intéressent aussi, puis des affaires qui ont été traitées dans les nouvelles, là, dans le sens qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand mystère autour de ça. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette nouvelle-là qui est arrivée sur nos ondes le 23 avril, qui mentionnait que dans un document envoyé par erreur à la municipalité de l'Île-Verte, on apprenait que les tarifs pourraient passer possiblement de 38$ la tonne à 97$ la tonne. À ce moment-là, vous avez été questionné, vous avez dit que c'était pas officiel, que ces tarifs-là pourraient changer. Premièrement, je voudrais qu'on explique à ceux qui nous écoutent de quel tarif on parlait là exactement. C'est le tarif chargé à la MRC, à la tonne, par le récupérateur. C'est quoi au juste?
Ben d'abord, de dire que c'est pas un document qui est envoyé par erreur par la MRC. La MRC, là-dessus, n'a pas de compétences. Hein? On en a sur les éco-centres, on en a sur la cueillette des matières putrécibles et le traitement, mais pas sur les matières récupérables. Donc, d'abord, faut préciser cet élément-là. C'est un courriel qui est envoyé à certaines communautés, dont entre autres Saint-Modeste, Saint-Cyprien, L'Île-Verte.
Mais envoyé par qui?
Par la société VIA.
Oui, c'est ça, dans un document envoyé par erreur à la municipalité de l'Île-Verte. Donc, il aurait été envoyé par VIA.
Oui, mais c'est pas une erreur. Dans le fond, l'erreur, c'est qui est marquée dans le communiqué du réseau, c'est si la MRC aurait envoyé le document. La MRC n'a pas ce type d'entente-là. Elle n'agit pas au nom des communautés locales. Donc, c'est des ententes entre la société VIA et les communautés locales. Pour un certain nombre de communautés, le contrat venait à échéance au 31 mars 2018 ou 19. Et il y en a d'autres qui c'est en 2021. Et la société VIA, essentiellement, elle a, je dirais, dans le courriel, parce que la municipalité de Saint-Cyprien en est une des quatre visées. Dans le courriel, ça expliquait là, le pourquoi de l'augmentation des tarifs au 1er mai 2019. Ce soir-là, vous savez, on a reçu cette information-là une heure avant la séance du conseil de la MRC. On a dit, on va s'en parler après la séance, comment on adresse la chose. C'est ce qu'on a fait. Et on a une rencontre avec les gens de la société VIA dans les prochains jours.
Mais c'est parce que on a fait un grand détour. La question était plus simple que ça. Ça concerne la facture qui est envoyée par VIA à la MRC, qui après ça la redistribue aux municipalités? Non?
La MRC n'a pas d'affaire dans ce dossier-là. Elle n'est pas là, la MRC.
OK. Les municipalités sont individuellement facturées.
Tout à fait.
Par rapport au tonnage qui est envoyé.
Tout à fait.
OK, parfait. Passer de 38 à 97 piastres. Vous en débattez quand même à la séance du Conseil des maires.
Non, on n'en a pas débattu publiquement en séance du Conseil des maires parce que, je vous le répète, c'est vraiment des liens individuels entre les communautés et la société.
Non, c'est parce que vous m'avez dit, on a reçu ça une heure avant la séance du Conseil des maires.
Il y a un maire qui nous en a parlé une heure avant la séance en disant, j'ai reçu ça de la part de mon DG, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait favoriser une rencontre, puis tenter de comprendre, puis c'est ce qu'on a fait. Là.
La MRC?
La MRC.
Donc, la MRC qui n'est pas impliquée va s'impliquer?
Bien, s'impliquer dans le sens qu'on va agir comme facilitateur pour, favoriser une rencontre entre la société VIA, les maires, les DG. Ça va se faire
incessamment. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y avait cette augmentation-là, qui est à peu près du simple, on augmente de 2/3 la facture, c'est les citoyens qui vont payer, là.
Oui, évidemment, il y a un impact. Dans le fond, ce qu'il faut voir aussi, puis c'est ce qu'on est, on va avoir le 17 mai, là, on a une rencontre avec la société VIA, on va avoir une rencontre avec quelqu'un qui va nous expliquer un peu quel est l'impact de la majoration, parce que vous savez, quand on fait des gestes pour détourner des matières du lieu d'enfouissement technique, on a une compensation en lien avec les coûts engendrés. Fait qu'on va voir, effectivement, quels sont les coûts réels.
Il y aurait combien de municipalités touchées par ça, éventuellement?
Pour l'instant, là, il y en a, ça serait l'ensemble des 12 municipalités. Il y en a 13 dans la MRC de Villazouille. Celle de Notre-Dame-des-Sauts-Douleurs, mais bien entendu, ne fait pas partie des... ils ont leur propre système de collecte sur l'île. Et dans le cas des 12 autres, ben pour l'instant, il y en a 5 qui étaient touchés pour l'année 2019 et il y en a 7 autres pour l'année 2021.
Il y a comme un front commun là, qui va se créer par la MRC pour représenter toutes les municipalités auprès de la société VIA.
Non, c'est l'ensemble des maires. C'est l'ensemble des maires.
Comment ça se fait que je comprends pas vite demain dans la fin? C'est peut-être parce que les explications sont longues.
Ben, je dirais que probablement, vous êtes fié au communiqué du réseau. Puis,
Non, ça n'a rien à voir.
Je vous le répète, là, nous, on a joué comme facilitateur. Ouais. Les 12, les 13 maires sont invités le 17 au matin. Ouais. On a une rencontre avec la société VIA. Puis, c'est les maires qui vont faire valoir leur point de vue.
C'est bon. Revenons sur la CEMER, la conférence de presse.
Oui.
Ben honnêtement, on a fait un petit bout de chemin à partir de cette conférence de presse-là. Un petit bout de chemin, je dis bien, parce que moi, au lendemain de la conférence de presse, comme je le fais à l'occasion, j'ai imagé la situation en disant que ça me faisait un peu penser à une pièce de théâtre d'été. C'est-à-dire que pendant qu'on sonne en avant puis que le monde va répondre à la porte, on en profite pour sortir par la porte d'en arrière. Parce que dans la réalité, ce que vous avez fait à cette conférence de presse-là, c'est que vous avez mis tout l'éclairage, tout le focus sur le fait que dorénavant, on allait produire du gaz comprimé. Là.
Tout à fait.
Et que tout à coup, le gaz naturel liquéfié, ça, c'était plus à la mode. On passe le squeegee, on efface tout ça, on n'en parle plus, on fait du gaz naturel comprimé. Moi, la question que je veux vous poser ce matin, en ce 1er mai...
Fin des travailleurs.
Est-ce que, vu qu'on travaille plus, pas ou moins sur le gaz naturel liquéfié, est-ce qu'on va perdre un peu moins d'argent à tous les mois avant qu'on finisse par produire du gaz naturel comprimé?
Ben, c'est sûr que lorsqu'on démarre la planification pour produire du GNL, c'est clair qu'il y a des frais, c'est à l'évidence. D'abord, des frais d'électricité plus importants.
On n'en produit pas, M. Lagacé.
Donc, mais c'est ce que vous me demandez, est-ce qu'il y a une différence en termes de déficit d'opération par mois?
C'est ça.
Ben, je vous réponds. Ouais. Donc, dans le fond, ce que je vous dis, c'est quand on met en place la planification pour produire du GNL, c'est sûr qu'il y a des frais qui arrivent.
Mais est-ce que la planification... Parce que, écrime que j'ai de la misère à comprendre.
Pour l'instant, c'est en mode
j'ai de la misère à comprendre. Tout à l'heure, j'avais de la misère à comprendre le préfet. Là, j'ai de la misère à comprendre le président de la CEMER. Mais présentement, là, est-ce qu'on met encore de l'argent à produire du gaz naturel liquide? On n'en met plus. Donc, on sauve un peu d'argent.
Pour l'instant, il y a un point de suspension sur la production du GNL parce que je dirais que l'ensemble des ressources actuellement sont mis d'abord pour favoriser davantage l'arrivée de matière. Donc, par l'entremise de nos citoyens puis en même temps par l'entremise d'entente avec des privés. L'autre élément, c'est que on est en discussion avec le gouvernement du Québec pour le gaz comprimé. Puis on est en discussion aussi, bien entendu, avec Énergie pour leur fournir aussitôt que possible le gaz comprimé.
Le gaz comprimé, présentement, est-ce qu'on fait des travaux pour être prêt à faire du gaz comprimé si on a l'argent du gouvernement?
Non, je vous dirais que non, on continue à travailler, bien entendu. Pour ce qui est du design, le design pour recevoir le compresseur, faire un Y pour éventuellement produire du GNL lorsque le marché sera intéressé à recevoir, puis l'autre Y qui va nous amener vers le compresseur pour produire du gaz naturel compressé.
Donc, on a cessé de mettre de l'argent sur le gaz naturel liquéfié.
Pour l'instant, effectivement.
Mais on met de l'argent sur le gaz comprimé.
On fait le design. C'est sûr
qu'il doit y avoir des frais, là.
Oui, effectivement. Il y a des frais d'ingénierie pour planifier la chose, effectivement.
Donc, au net du net, on sauve pas grand-chose en arrêtant de travailler sur le GNL.
Ben, c'est parce que...
En bas de la feuille, là, total.
On va voir les états financiers, puis on va voir aussi l'état des lieux mensuellement. On a une rencontre dans les prochaines semaines là-dessus. C'est clair que notre client, c'est-à-dire Énergie, nous demande du GNCR. Fait que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire. Puis, dans leur cas, eux, ils ont des demandes très importantes de clients qui sont intéressés à avoir du gaz naturel comprimé renouvelable. Fait que c'est ce qu'on va produire.
OK. À l'occasion de la conférence de presse, votre partenaire privé a expliqué d'une manière qui était très facile à comprendre que finalement, à un moment donné, quand c'est venu le temps de faire ce que moi j'ai appelé du 4 dans 1, là, qui n'avait jamais été fait à nulle part, ça n'a pas fonctionné. La question que je veux vous poser, M. Lagacé, puis oui. je vais essayer de comprendre, là, avec une très...
Moi, je vais essayer de...
Avec une très grande ouverture d'esprit, là.
Comme d'habitude.
Quand vous avez commencé dans ce projet-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait que du 4 dans 1, on allait expérimenter ça ici, à la Sémère, à Rivière-du-Loup? Qu'on n'avait pas de comparable à nulle part, qu'on allait devoir l'inventer.
Oui, bien, je dirais que tous les équipements qui sont là se retrouvent ailleurs en production. La biométhanisation, elle fonctionne très bien.
M. Lagacé, on sait ça. Ouais. La question, c'est faire du 4 dans 1. Est-ce que vous saviez au départ, est-ce que votre partenaire privé vous a dit, ouais, écoutez les copains, on n'a jamais fait ça, on se lance dans une aventure, si vous embarquez, on va y aller, si vous embarquez pas, j'embarque pas.
Non, M. Saint-Pierre, quand on a fait l'appel d'offres en 2008 pour aller chercher un partenaire, on savait qu'il y avait la responsabilité de mettre en place une usine qui allait produire un digesta, un gaz, puis qu'éventuellement, ce gaz-là pourrait être liquéfié. Oui. Fait que je pense que là-dessus, on a toujours été très clair, M. Saint-Pierre. C'était pour nous, c'était un projet unique dans le monde. Il n'y avait pas de comparable. Je pense qu'on l'a répété à de multiples occasions. Ça, c'est pas nouveau. Là. C'est pas comme le soleil ce matin. Là. Donc, c'est pas nouveau, on l'a dit. C'est un défi, mais un défi qu'on a rencontré pour ce qui est de la production, de la biométhanisation, la production d'un digesta, d'un biogaz. On est capable de le purifier à 99,7%. Ces étapes-là, elles sont réalisées, même...
On le sait, M. Lagacé, je vous repose la question...
Fois, pour répéter.
Je vous repose la question... Je le sais, je répète en call-in de bin le matin, là.
Pas tant que ça.
Pour faire du 4 dans 1, il n'y avait pas d'expertise. Est-ce que votre partenaire privé vous a dit, à vous les partenaires de la Sémère, on ne sait pas comment faire? Vous voulez qu'on embarque...
Excusez-moi.
Pour faire du gaz naturel liquéfié?
On sait comment le faire. Il reste un dernier bout qu'on ne voit pas parce que on s'en va sous le GNCR, parce que le marché nous dit on n'a pas besoin de GNL.
Non, M. Lagacé, là, on va chicaner, là. Bon, c'est sûr qu'on va chicaner.
Ça, là, vous chicaner.
Non, parce que ça fait 3 ans que vous essayez de faire du gaz naturel liquéfié, puis ça marche pas. Oui. Venez pas me dire que vous savez comment faire.
Non, regardez, M. Saint-Pierre, ce qui a été bien clair, puis je pense qu'on vous a répété ça dans quelques occasions, ça me fait plaisir de le répéter à nouveau. C'est un système de démarrage par étapes. À toutes les fois où ce qu'on rencontre une problématique, c'est évidemment, on recommence les étapes. Dites que ça fait 3 ans, mais je veux simplement vous rappeler que 2017, là, vous allez dire, vous vous répétez, mais les cellules étaient noyées. Fait que c'est difficile d'aller chercher du biogaz dans l'intérieur du lait quand les cellules sont noyées.
Mais je comprends, M. Lagacé, mais même quand ils sont plus noyés, ça fonctionne pas.
On parle de 2018, M. Saint-Pierre. On est allé, on a produit un gaz naturel qui a été épuré, ce qui était, c'est une première pour ce qui est de nous. Puis, il nous reste la dernière étape, c'est-à-dire la production de GNL. Puis, on était rendu à moins 115, moins 120 degrés Celsius. Il fallait atteindre le moins 160. Puis, on n'a pas atteint le moins 160 parce que une fin de semaine, il est arrivé une baisse de tension électrique. Puis, ça en est des difficultés pour ce qui est d'un élément de liquéfaction. On est là.
J'avais quand même espoir que ce matin, on arrive à une espèce de conclusion. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... On n'avait pas de modèle. On a fait des tentatives qui, à chaque fois, échouaient. Et la résultante, c'est qu'on n'a pas encore produit de gaz naturel liquéfié. Puis on ne sait pas vraiment non plus quand est-ce qu'on aurait fini par... Je pensais qu'on allait arriver à une espèce de consensus comme ça.
M. Saint-Pierre...
Mais au terme de l'entrevue...
On aurait pu continuer...
On ne sera pas plus avancé qu'avant l'entrevue. Là.
Je vous dirais que ce qu'il faut se rendre bien compte, c'est que... Puis je pense que ça a été répété à Tnoséam à la conférence de la presse. On a l'obligation de détourner 100% des matières putrécibles
d'ici
2020. On doit tous et toutes mieux faire par rapport à l'environnement. Puis dans notre cas, nous, l'autre élément, c'est on va produire du GNCR.
Une aventure qui nous aura quand même, à date, coûté quoi, là, en déficit? 5 millions?
Bien, on était le 31 décembre 2017, 5,2 millions.
C'est ça. Les états financiers, on les verra pas.
Oui, vous avez tout à fait raison.
On les verra pas.
Non, les membres du conseil d'administration vont le voir. Le conseil de la MRC va les voir. Ouais. mais ça ne sera pas un document qui va être rendu public.
Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix avait quand même une très bonne interrogation. M. Périard a dit, comment ça que... En ce qui concerne les éoliennes, on les voit, les états financiers.
Non, ça, c'est... on a eu une discussion, M. Perrier et moi. M. Perrier fait partie du conseil d'administration de Vigier de Nonville. Les états financiers de Vigier de Nonville ne sont pas publics. Les états financiers d'Inergex, par rapport à ces... aux gens qui sont en bourse, les actionnaires, ils ont accès à aux états financiers d'Inergex, mais non pas aux états financiers de Vigier de Nonville.
OK.
Ça, c'est clair.
Qu'est-ce qu'on perdrait à dévoiler les états financiers?
Bien, regardez, on a un avis juridique, M. Saint-Pierre, qui a été fait par un cabinet ici à Rivière-du-Loup. Un avis juridique qui est très clair sur les préjudices potentiels pour le partenaire privé. Ouais. Fait que, puis, vous savez, on est dans la recette. On souhaite aller chercher davantage de volume. Fait que tout ce qui peut nous amener à aller chercher davantage de volume, on va le faire. Tout ce qui pourrait être un irritant pour aller chercher davantage de volume, sécuriser nos ententes, on sera pas là.
Vous n'êtes pas le président de la SMR, mettons, M. Lagacé.
Oui, je suis président de la SMR.
Non, mais je veux dire, mettons que vous ne l'êtes pas. Là.
Oui.
Vous seriez probablement parmi les premiers à dire que ça n'a pas de bon sens qu'on puisse pas voir les états financiers en étant actionnaire à 80 %. Là.
Dans le fond, la ville de Rivière-du-Loup est actionnaire à 40 %. La MRC de Rivière-du-Loup, via ses communautés, est actionnaire à 40 %. Le privé est à 20. Je dirais qu'on a, y a un avis juridique, M. Saint-Pierre.
Non, je comprends. Là, mais un avis juridique,
on peut... Je suis président du de Nonville.
Mais l'avis juridique, M. Lagacé, bien souvent... Souvent, un avis juridique, on peut demander ça, justement, pour voir si on est capable de mettre une barrière.
Mais la barrière est identifiée.
Bien, c'est ça.
La barrière est identifiée. Et puis, je suis président de Vigier de Nonville. Ouais. Puis, les états financiers, ils sont pas publics. Ouais. Puis, pourtant, on est partenaire à 50 %.
OK. Centre communautaire à Alcide Ouellet.
Oui.
Quand est-ce qu'on va mettre les lettres après Baptiste?
je dirais qu'on a eu, dans les derniers mois, on a eu une entente avec les différents commanditaires. Puis, on est parti en appel de proposition pour aller chercher le meilleur prix.
Le meilleur prix pour?
Pour les pancartes qui vont être à l'extérieur, qui vont identifier le centre Alcide Ouellet.
OK. Parce que ça va être... Les lettres vont être payées par des commanditaires.
Non, dans le fond, nous, on va y avoir une signalisation qui va nous permettre en même temps et d'annoncer le centre communautaire Alcide Ouellet, puis en même temps les activités de la communauté où certains besoins pourraient émerger de la part d'entreprises locales. Fait que on s'est entendu là-dessus, puis ça fait l'affaire de tout le monde. Sur le dessus, ça va être bien indiqué, là, centre communautaire Alcide Ouellet.
OK. Pente Alpha.
Oui.
Comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien.
Non, mais dans le sens que c'est quoi?
Ben, ils ont commencé.
Rapport d'étape, là.
Ben, ils ont commencé. D'abord, le bâtiment a été construit. Marcel Charest et fils, ça a été une belle réussite. Dans des conditions pas toujours faciles, parce que quand on a commencé les travaux, la neige était commencée dans les hauts. Mais depuis quelques semaines, les gens de Pont-Alpha, il y a des ressources qui sont rentrées parce que il y avait des besoins plus rapides qu'anticipés. Puis il reste encore des travaux, dont notamment des quais d'embarquement et de débarquement pour ce qui est des camions. Ça va être fait dans les prochaines semaines. Mais on est très fiers de cela. C'est un beau bâtiment, une belle entreprise. Mm-hmm. Puis il va y avoir des gens qui vont travailler là, qui vont être dans la bonne humeur.
OK. Préfet élu.
Oui.
Suffrage universel.
Oui.
En 2014, Michel Lagacé dit « Ouais, on est rendu là ».
Oui.
En 2019, ça a l'air qu'il n'y a absolument rien qui a bougé.
Bien, il reste 2 ans et demi avant la prochaine élection générale au Québec pour ce qui est 2 ans et demi, peut-être davantage, qu'on entend, peut-être que les élections vont être décalées au printemps 2022 pour ce qui est des élections municipales. Donc, je pense qu'il reste encore du temps, M. Saint-Pierre, à avoir des discussions au conseil de
la
MRC.
Mme Vignel, la mairesse, a dit, on n'a pas encore parlé, mais a dit les élections, ça se prépare longtemps d'avance.
Tout à fait. Au printemps...
Michel Lagacé, il pense quoi, matin, là? 1er mai 2019 par rapport à... On va écouter ça.
Je le dis, là, il y a de plus en plus de responsabilités. On peut bien tenir le fort à bout de bras, mais à un moment donné, il va falloir des ressources qui soient à temps complet, notamment préfet élu au suffrage universel.
Bon, ouais. il dit quoi, 1er mai 2019, Michel Lagacé? Le ruban tourne.
Oui, il n'y a pas de problème avec le ruban. Habituellement, je suis assez cohérent. Je ne change pas d'avis sur le fait qu'il y a beaucoup de responsabilités qui incombent depuis quelques années au MRC. Je pense qu'avec le gouvernement actuel, ce qu'on entend, c'est qu'il va en avoir de plus en plus. Fait que ça va être au conseil de la MRC à indiquer ce qu'ils souhaitent à partir du mois de novembre 2021 okay. Au mois de mai 2022.
OK. Donc, Michel Lagacé, lui, remet son sort entre les mains des maires.
Bien, c'est évidemment. C'est okay. le conseil de la MRC qui va prendre position là-dessus.
Mais en 2014, on avait l'impression que Michel Lagacé était rendu là.
Ouais,
en,
Michel...
en 2019, on n'est plus sûr, là.
Ben non, ce que je dis, c'est la même affaire qu'en 2014. C'est pas Michel Lagacé qui dit « Je me lève la main, puis c'est un préfet de l'Ouest universel. » C'est pas de même que ça marche, là.
Okay.
Il y a 13 élus autour de la table, puis c'est les élus qui décident.
OK. On va écouter ce que Sylvie Vigneault avait à dire là-dessus sur le préfet élu au suffrage universel.
Ben c'est sûr que moi, j'y crois beaucoup au préfet élu, là. Quand t'es élu, ça te donne les coups des franges de la population, parce qu'à date, il n'y a rien d'avancé là-dedans au niveau de la MRC, là. Ça risque d'être serré, parce que nous, juste pour les élections ici, ça fait quand même depuis le début qu'on en ramasse, là. Aussitôt qu'on est élu, le lendemain, on commence, là. Fait que oui, c'est...
La mairesse de la plus grosse ville dit on n'a pas entendu parler de rien.
Ben, effectivement, ça c'est pas
possible. Mais qui va lancer ça? Y a-t-il quelqu'un qui va...
À la MRC, ça va se parler, M. Okay. Saint-Pierre. Je vous dirais là, que la date limite, assurément, là, c'est 2020, où est-ce qu'on va devoir se prononcer pour prévoir.
Michel Lagacé, merci.
Merci, M. Saint-Pierre. Au plaisir.
Bien sûr.